Voici une question qui est vraiment d'actualité. Est-ce que les gouvernements humains peuvent améliorer le monde? La parole de Dieu va nous donner une réponse claire et instructive aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Je suis vraiment épatée quand je réalise que des choses écrites il y a des milliers d'années sont toujours d'actualité aujourd'hui pour notre instruction. Alors voici les questions qu'on va poser au livre du prophète Ésaïe aujourd'hui. Serait-il normal de questionner Dieu au sujet de son plan pour nous? Comment pouvons-nous savoir si c'est Dieu ou Satan qui nous gouverne? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut empêcher les projets de Dieu de s'accomplir? Est-ce que les gouvernements humains peuvent améliorer le monde? Est-ce qu'il suffit de fréquenter le peuple de Dieu pour être sauvé? Est-ce que les idoles peuvent secourir leurs adeptes? Est-ce que Dieu aime les pécheurs? Est-ce que Dieu donne aux gens l'occasion de reconnaître Jésus comme étant l'agneau de Dieu? Qu'est-ce qui pousse les gens à rejeter Dieu et sa parole? Restez des nôtres, le pasteur Régent Joly est sur le point de nous enseigner ce que la Bible dit en réponse à chacune de nos questions. Mais premièrement, prions. Merci, Seigneur, de nous donner la prière, qu'on puisse te parler librement en sachant que tu nous entends et que tu désires nous exaucer. Merci, Seigneur, merci pour ce que tu vas nous enseigner aujourd'hui. Aide-nous à le retenir, aide-nous à l'appliquer dans nos vies à chaque jour, mon Père. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. À la dernière émission, nous avons vu que les prophéties de Dieu s'accomplissent. Celui-ci avait prédit la destruction de Babylone et annoncé que la ville deviendrait un repère pour la faune du désert. C'est exactement ce qui s'est produit. Dieu lui-même a rétabli Israël dans son pays après les 70 ans de captivité annoncés par le prophète Jérémie. Et c'est Dieu lui-même qui rétablira la nation d'Israël lors de la grande tribulation et du règne millénaire de Jésus-Christ. Le rétablissement d'Israël ne sera pas l'œuvre d'efforts humains, et le peuple possédera le pays en paix. Tout comme les Égyptiens ont contribué à la libération d'Israël lors de la sortie d'Égypte en donnant des objets d'argent et d'or aux Hébreux, tout comme les peuples, selon le décret de Cyrus, ont contribué des biens aux Juifs lors du retour de la captivité, de même Dieu disposera les cœurs des peuples et ils contribueront au rétablissement d'Israël dans son pays. Dieu a promis que son peuple vivrait en paix une fois la nation rétablie. Dieu donne toujours du repos à ceux qui viennent à lui. Jésus-Christ nous invite à venir à lui et il nous promet du repos pour notre âme. Nous avons aussi souligné le fait que Dieu a toujours jugé les nations qui ont opprimé son peuple. Nous serons tous jugés par Dieu un jour et le jugement se fera sans favoritisme. Et non sur les apparences. Les sauvés recevront des récompenses, et les non-sauvés iront à la perdition éternelle. Nous avons aussi vu l'origine du péché. Satan, appelé Lucifer, était un être beau et parfait. Cependant, à cause de son orgueil démesuré, il a voulu faire passer sa volonté avant celle de Dieu. Il s'est rebellé contre son Créateur. Tout ce qui est contraire à la volonté et au caractère de Dieu est un péché, qu'importe ce que c'est. Il est possible de pécher en fréquentant même une bonne église. Nous n'avons qu'à y aller avec une mauvaise attitude ou un mauvais motif. Quelle voie suivez-vous, celle de Dieu ou la vôtre? Depuis la chute d'Adam, nous sommes incapables d'obéir à Dieu. C'est pourquoi il faut venir à lui en reconnaissant que nous sommes pécheurs et en passant par Jésus-Christ. Lorsque nous venons à Jésus-Christ, il nous donne une nouvelle nature. C'est cela que nous appelons la nouvelle naissance. Il ne faut pas craindre de venir à la lumière, parce que le Seigneur Jésus ne met pas qui que ce soit dehors. Il accueille tous ceux qui viennent à lui. Lucifer a péché en préférant faire sa volonté plutôt que celle de Dieu. Il s'est laissé emporter par son orgueil démesuré. Les êtres humains naissent avec des natures pécheresses, et ils agissent comme Lucifer. Ils font passer leur volonté avant celle de Dieu. Il n'y a aucune possibilité de salut pour Satan. Par contre, il y en a une pour nous. Jésus-Christ est le chemin qui mène à Dieu. Nous poursuivons notre étude de la chute de Satan et de l'origine du péché dans l'univers en lisant Ésaïe chapitre 14, versets 15 à 17. « Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard, et ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes ?» et ne relâchait point ses prisonniers. » Cette prophétie a une double application. Elle s'applique à Belshazzar, le roi de Babylone, qui a méprisé Dieu en se servant des vases du temple lors d'une orgie. Le soir même, Darius, le roi des Mèdes et des Perses, s'est emparé de Babylone, et Belshazzar a été tué. Il a été précipité dans le séjour des morts, où il n'a plus aucune gloire ni aucune puissance. Il en sera de même à la fin des temps, lorsque Satan sera précipité dans l'étang de feu pour l'éternité. Tous verront que cet être orgueilleux n'avait pas la puissance et la sagesse de Dieu. Lui aussi n'aura plus aucune gloire. Faisons confiance à Dieu qui nous propose la miséricorde, sa grâce et son amour. Satan sera jugé sévèrement par Dieu. Il se retrouvera dans l'étang de feu qui a été préparé pour lui. Dieu a un plan grandiose qui dépasse la compréhension humaine et il l'accomplira. Nous n'avons pas questionné Dieu au sujet de son plan. Nous devons plutôt lui faire confiance, puisqu'il nous propose d'être l'objet de sa miséricorde, de sa grâce et de son amour. Revenons à Ésaïe. Ésaïe chapitre 14. Versets 18 et 19. Tous les rois des nations, oui, tous, reposent avec honneur chacun dans son tombeau. Mais toi, tu as été jeté loin de ton sépulcre, comme un rameau qu'on dédaigne, comme une dépouille de gens tués à coups d'épée et précipités sur les pierres d'une fosse, comme un cadavre foulé aux pieds. Qui vous gouverne? Dieu ou Satan? Babylone était sous le gouvernement de Satan. Rappelez-vous de la tentation de Jésus-Christ. Satan lui a offert tous les royaumes de la terre, s'il acceptait de l'adorer. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera... tout à toi. » Luc chapitre 4, versets 5 à 7. Babylone appartenait à Satan. Satan se trouve derrière Babylone, ainsi que tous les royaumes de ce monde. Babylone deviendra le lieu de rassemblement pour toutes les nations qui s'opposent à Dieu. Le roi de Babylone n'a pas eu droit à des funérailles d'État. Son corps a simplement été jeté. Ce roi était sous le contrôle de Satan. Et ainsi, Dieu humilie Satan. La chute de Babylone est une défaite de Satan. Ésaïe 14, versets 22 et 23. « Je me lèverai contre eux, dit l'Éternel des armées. Je supprimerai le nom et la trace de Babylone, ses descendants et sa postérité, dit l'Éternel. J'en ferai le gîte du hérisson et un marécage, et je la balayerai avec le balai de la destruction, dit l'Éternel des armées. » Dieu accomplit ses plans et aucune créature ne peut entraver ses projets. Ces versets se sont littéralement accomplis. Lorsque Dieu se lève contre une nation, une ville ou un autre adversaire, rien ne l'arrête. Il exécute ses jugements. Belshazzar a été tué ainsi que sa descendance. Les nations se rassembleront sous la puissance de Babylone, symbole de la rébellion. Mais Dieu la détruira de nouveau. Dieu est souverain et tout-puissant. Il accomplit ses plans et aucune créature ne peut entraver ses projets. Versets 24 et 25. L'Éternel des armées l'a juré en disant, « Oui, ce que j'ai décidé arrivera. Ce que j'ai résolu s'accomplira. Je briserai l'Assyrien dans mon pays. Je le foulerai aux pieds sur mes montagnes, et son joug leur sera ôté, et son fardeau sera ôté de leurs épaules. » L'Assyrien représente le roi qui viendra du nord. Les versets 19 à 27 décrivent le jugement de Babylone et tout ce qu'elle représente. Nous avons déjà un accomplissement partiel de cette prophétie, mais elle a été accomplie littéralement. Verset 28 d'Ésaïe 14. L'année de la mort du roi Achaz, cet oracle fut prononcé. Maintenant, nous avons un oracle ou une prophétie au sujet des Philistins. L'oracle a été prononcé à l'occasion de la mort du roi Achaz. Il a régné pendant 16 ans et il a été un mauvais roi. Le peuple a été heureux de son départ, bien qu'il craignait peut-être l'arrivée d'un autre mauvais roi. En fait, un bon roi est monté sur le trône après le départ d'Achaz. Verset 29. Ne te réjouis pas, pays des Philistins, de ce que la verge qui te frappait est brisée, car de la racine du serpent sortira un basilic, et son fruit sera un dragon volant. Un changement de gouvernement ne règle rien. Deux bons rois ont succédé à Achaz sur le trône de Juda, mais les pires des rois viendront ensuite. Nous voyons que ce ne sont pas les gouvernements humains qui vont améliorer le monde. Parfois nous pensons que si nous changeons le parti au pouvoir et le premier ministre, que tout ira mieux. Nous avons souvent profité des élections pour changer de gouvernement, mais cela n'a rien donné. Dieu dit aux Philistins de ne pas se réjouir parce qu'Achaz est mort. En fait, les choses ne s'amélioreront pas. Israël est plus coupable que les autres nations. Avant de recevoir les bénédictions du millénium, un jugement sévère sera exercé sur le peuple de Dieu. Il sera plus sévère que celui des nations avoisinantes parce que le peuple de Dieu pèche contre plus de lumière, ce qui rend la nation plus redevable et plus coupable. Ésaïe entrevoit la période de la grande tribulation et du règne de l'Antéchrist. Les Philistins ont dû s'installer dans le pays qui porte leur nom, alors que les Hébreux étaient en Égypte. Ils n'occupaient pas ce pays au temps d'Abraham, puisque les Cananéens étaient établis sur ce territoire. Mais les Philistins y sont installés lorsque les Hébreux reviennent 400 ans plus tard. Dans les livres du prophète Sophonie et du prophète Zacharie, nous trouvons des prophéties au sujet d'Ashod et d'Ascalon, deux villes des Philistins. Ces villes devaient être détruites et les prophéties à leur sujet se sont accomplies. Le chapitre 15 est bref et il contient un oracle au sujet de Moab. En fait, ce chapitre d'Ésaïe ainsi que le suivant traite de Moab. Depuis le temps de David, Moab était un pays important. C'est pourquoi le prophète y prête autant d'attention qu'à Babylone. Moab est une nation qui descend de Lot. Son ancêtre est le fruit d'une relation incestueuse avec sa fille aînée. Moab était le fils illégitime né de cet incident sordide, et il est devenu le père des Moabites. Ce peuple a toujours été un ennemi d'Israël. Balak, son roi, a embauché Balaam afin que celui-ci maudisse le peuple de Dieu, car il ne voulait pas laisser Israël passer sur son territoire. Ruth, dont un livre de la Bible porte son nom, était une Moabite. Cette femme était une personne merveilleuse. Ruth est une ancêtre du roi David. Isaïe, le père de David, était un descendant d'Obed, le fils de Boaz et de Ruth. David avait de la parenté dans le pays de Moab. C'est dans le pays de Moab que les parents de David ont trouvé refuge alors que Saül poursuivait David. Fréquenter le peuple de Dieu ne suffit pas pour être sauvé. La nation de Moab n'existe plus depuis plusieurs siècles. Cependant, qui sont les descendants modernes des Moabites? Je pense que Moab représente ceux qui affirment être des enfants de Dieu sans avoir de relation personnelle et intime avec lui. Tout comme Félix et Festus, les Moabites ont été presque persuadés en entendant la vérité. Ils n'étaient pas loin du royaume, mais ils n'y sont jamais entrés. Ils étaient les voisins du peuple de Dieu, mais ils n'ont jamais suivi les voies de Dieu. Le Moabite moderne se trouve dans nos églises. L'apôtre Paul le décrit ainsi, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Citation de 2 Timothée chapitre 3 verset 5. Jude le décrit aussi. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Jude 16. Le Moabite moderne ne craint pas Dieu, bien qu'il affirme le contraire. Il te flatte s'il pense pouvoir obtenir quelque chose de toi, mais il disparaît vite lorsqu'il se rend compte que ce n'est pas le cas. Le Moabite est un ami dangereux. Il n'a jamais été un allié fiable d'Israël. Lisons Ésaïe 15, verset 1. Oracle sur Moab, la nuit même où elle est ravagée. Ar Moab est détruite, la nuit même où elle est ravagée. Kir Moab est détruite. Moab a été frappé soudainement. La Syrie a complètement détruit Moab. Le malheur est arrivé en pleine nuit. La nation ne s'est jamais relevée. Verset 2. On monte au temple et a dit bon, sur les hauts lieux pour pleurer. Moab est en lamentation sur Nebo et sur Medeba. Toutes les têtes sont rasées, toutes les barbes sont coupées. Dibon était une ville à l'est du Jourdain. Moïse a vu la terre promise du mont Nebo, et Medeba était une ville qui appartenait à la tribu de Ruben. Tous ces endroits qui appartenaient à Moab au temps d'Ésaïe seront détruits, parce que Moab disait adorer le vrai Dieu tout en pratiquant l'idolâtrie. Verset 3 d'Ésaïe 15. Dans les rues, ils sont couverts de sacs, sur les toits et dans les places. Tout gémit et fond en larmes. Les idoles ne sont d'aucun secours. Partout, c'était le désespoir. Le peuple s'est revêtu de sacs et il a gémi, mais ses idoles n'ont pas été d'aucun secours. Verset 5. Mon cœur gémit sur Moab, dont les fugitifs se sauvent jusqu'à Tsoar, jusqu'à Églat chez les Chichas. Car ils font en pleurant la montée de Luchit, et ils jettent des cris de détresse sur le chemin de Coronaïm. Dieu aime les pécheurs et leur propose sa miséricorde. Le cœur d'Ésaïe est touché par le malheur et la terreur qui frappe Moab, l'ennemi de son propre peuple. Ceci est une image du cœur de Dieu. Malgré que les gens soient très pécheurs aujourd'hui, Dieu les aime et il leur propose sa miséricorde. Le reste du chapitre 15 contient une description des malheurs qui ont frappé Moab. Et le chapitre 16 débute avec une invitation à accepter la miséricorde de Dieu. Lisons Ésaïe 16, verset 1. Envoyez les agneaux aux souverains du pays. Envoyez-les de Séla, par le désert, à la montagne de la fille de Sion. Dieu a donné à Moab l'occasion de le reconnaître. Des agneaux devaient être envoyés en Israël afin d'être offerts sur l'autel. L'agneau était l'animal qui illustrait le mieux la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Jésus a été appelé l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Jean chapitre 1 verset 29. Si Moab avait envoyé un agneau, la nation aurait reconnu le Dieu d'Israël par ce geste. Elle ne l'a pas fait. Les Moabites voulaient être religieux sans reconnaître qu'ils devaient se soumettre à la volonté de Dieu et qu'ils étaient des pécheurs aux yeux de Dieu. C'est cela qui a été leur grand péché. Verset 2. Tel un oiseau fugitif, tel un niché effarouché, telles seront les filles de Moab au passage de l'Arnon. L'Arnon n'était qu'une petite rivière qui ne pouvait pas protéger les Moabites de l'armée assyrienne. Ils ont été capturés à cet endroit. Nous sautons au verset 6. Nous entendons l'orgueil du super Moab, sa fierté, sa hauteur, son arrogance et ses vains discours. Dieu a rejeté et jugé Moab parce que la nation, dans son orgueil, a rejeté la proposition de miséricorde qui leur a faite. Dieu aurait pu les libérer, mais Moab n'a pas voulu se tourner vers lui. Nous passons aux versets 13 et 14 d'Ésaïe 16. Telle est la parole que l'Éternel a prononcée dès longtemps sur Moab. Et maintenant l'Éternel parle et dit, dans 3 ans, comme les années d'un mercenaire, la gloire de Moab sera l'objet du mépris, avec toute cette grande multitude, et ce qui restera sera peu de chose, presque rien. Lorsque Dieu juge et châtie les nations qui avaient eu des contacts avec Israël, il respectait un calendrier qu'il avait établi. Il ne fait jamais cela avec l'Église. 3 ans plus tard, Dieu a utilisé l'Assyrie afin de détruire la nation moabite. La nation a été jugée principalement à cause de son orgueil. L'orgueil pousse les gens à rejeter Dieu et sa parole. Lucifer, l'étoile du matin, s'est aussi enflé d'orgueil. Il voulait élever son trône au-dessus de celui de Dieu. Il voulait établir son propre royaume, entièrement indépendant de celui de Dieu. Ceci décrit aussi l'attitude des théologiens libéraux. L'orgueil pousse les gens à rejeter Dieu et sa parole. La plupart des gens veulent faire leur propre religion. Ils veulent faire quelque chose pour mériter leur salut, car cela flatte leur orgueil. De nombreuses personnes accusent les membres des églises d'être hypocrites, égoïstes et de s'opposer à Dieu. Ceci est dû à l'orgueil du cœur humain. Chacun suivait sa propre voie. Ésaïe 53, verset 6. Le jugement divin a frappé Moab, cette nation oubliée aujourd'hui, a un message pour nous. Mes amis, Dieu nous lance aujourd'hui le même appel qu'il a lancé à Moab. Il nous appelle à revenir à lui afin que nous puissions éviter le jugement et la condamnation éternelle. Dieu ne lance pas cet appel à une nation, mais aux individus. Il y a un carton d'invitation qui ne porte que votre nom. L'apôtre Pierre dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Acte 2, verset 38. « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Acte 3, verset 19. Cette invitation a été faite à des individus de toutes les nations. En effet, le premier auditoire de Pierre était formé de visiteurs venus à Jérusalem pour la Pentecôte, et ils provenaient de tous les pays. Dieu vous demande de venir à lui afin d'effacer vos péchés. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains chapitre 6, verset 23. Qu'allez-vous faire, mes amis? Allez-vous vous entêter dans votre orgueil pour un jour aboutir au jugement et à la perdition éternelle? Ou allez-vous accepter l'invitation que Dieu vous fait? Pensez aux deux malfaiteurs qui ont été crucifiés avec le Seigneur Jésus. Les deux se sont moqués de lui, mais l'un d'eux s'est finalement repenti. Il est mort avec l'assurance d'aller au ciel, et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Luc chapitre 23, les versets 42 et 43. Ce malfaiteur était absolument incapable de faire quoi que ce soit pour être sauvé et aller au ciel. Il a fait appel à la grâce de Dieu et il a mis sa confiance en Jésus-Christ. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant Ésaïe, chapitre 16, verset 6, jusqu'au chapitre 18.
Merci beaucoup, Réjean. Je suis vraiment heureuse que tu nous aies entretenus au sujet de l'orgueil aujourd'hui. C'est tellement important qu'on soit tous conscients de ce que l'orgueil produit dans nos vies. Personnellement, mes amis, je peux vous affirmer que c'est l'orgueil qui m'a empêché d'écouter ce que Dieu avait à me dire 1 an avant ma conversion. Mon guitariste, qui venait de découvrir que Dieu avait pourvu un moyen pour nous sauver, pour nous donner la vie éternelle, était tout feu tout flamme et voulait partager avec moi ce que Dieu venait de faire dans sa vie. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? j'ai refusé de l'écouter, par orgueil. J'ai refusé d'entendre le message d'amour que Dieu voulait me transmettre par son enfant qui venait de naître de nouveau. Mais je rends grâce à Dieu, je le remercie, parce qu'au cours de l'année qui a suivi, il a utilisé tous les aspects de ma vie pour m'humilier, pour briser mon orgueil, afin que j'écoute ce qu'il avait à me dire. Et ce message, mes amis, c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu m'a brisé concernant l'amour, ou plutôt le manque d'amour dans ma vie. Il m'a brisé concernant ma carrière artistique, qui ne prenait pas son essor dans la nouvelle direction que j'essayais de prendre. J'étais complètement démolie, désillusionnée, découragée. Et Dieu a placé une autre personne sur mon chemin au bon moment, alors que j'étais dans l'humiliation. Cette personne m'a annoncé que dans son amour, Dieu avait envoyé son Fils Jésus sur la terre afin qu'il paye la dette de mon péché en mourant sur la croix. Jésus, Dieu fait homme, s'est humilié jusqu'à la mort de la croix pour recevoir ma condamnation sur lui, lui qui n'avait jamais péché, lui qui était doux et humble de cœur. Il était le sacrifice parfait, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, comme Régent l'a mentionné au cours de son enseignement. Oui, mon ami, Jésus est l'agneau de Dieu qui a ôté mon péché. Il est l'agneau de Dieu qui veut ôter ton péché, en ce moment même. Est-ce que tu vas faire comme j'ai fait un an avant ma conversion? Ou si tu es assez humble, que sans le sacrifice de Jésus, tu es incapable de gagner ton ciel, soit par tes bonnes œuvres, soit par tes souffrances? Dans le deuxième chapitre de l'Épître aux Éphésiens, au verset 8 et 9, Paul nous dit que c'est par la grâce qu'on est sauvé, par le moyen de la foi, et que cela ne vient pas de nous, mais que c'est le don de Dieu. Et il ajoute que ce n'est pas par nos œuvres, afin que personne ne se glorifie. On voit encore l'orgueil ici, qui nous amène à penser qu'on peut se sauver soi-même. Mais Dieu dit dans sa parole qu'il ne donnera pas sa gloire à un autre. Alors mon ami, Dieu t'aime. Il aime le pécheur, mais il déteste le péché. C'est pourquoi il t'invite à ce moment à te repentir, à changer de direction à l'égard du péché. Es-tu prêt à le faire? Demande à Jésus de te sauver, de te donner la vie éternelle. Si tu crois en lui de tout ton cœur, tu seras sauvé. Paul nous dit dans son épître aux Romains que le salaire du péché, c'est la mort, mais que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Reçois ce beau cadeau que Dieu t'offre en ce moment. Tu ne sais pas si tu vas vivre demain.
Régent, je pense que les gens comprennent pas exactement c'est quoi un déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu l'expliquer?
Avec joie, Caro. Les gens sont invités à venir participer à un déjeuner de l'espoir qui se déroule dans un restaurant. Mmh. Un endroit où les gens sont habitués à venir. Qui n'a pas pris un repas dans un restaurant? C'est un lieu public. Mmh. Alors, les gens viennent, ils y assistent et ils peuvent manger gratuitement.
Wow!
Gratuitement, en plus d'entendre un merveilleux témoignage, c'est ça qui fait que le déjeuner est merveilleux, c'est qu'il y a un témoignage d'une personne. Ça pourrait être toi, Caro, ou moi, ou une toute autre personne qui a vécu une expérience personnelle avec Dieu. Comment est-ce que Dieu a transformé, a changé, je pourrais même dire bouleversé sa vie?
Eh oui, Dieu a vraiment bouleversé la mienne et j'aime ça raconter ça. J'aime ça aussi pouvoir chanter mes anciens succès. C'est le fun de voir les gens qui rient d'entendre toutes ces anciennes chansons-là. Et finalement, je leur dis ce que Dieu a fait pour moi. Puis c'est merveilleux. C'est bon dans mon cœur de l'annoncer aux gens. Combien Dieu les aime. Et ça se fait à la grandeur du Québec.
Comment peut-on savoir s'il y en a un près de chez nous?
Eh bien, vous pouvez nous rejoindre par téléphone.
1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647 ou via courriel
à www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143 Charlebourg, province de Québec, G1G6P2. Chers amis, au revoir.
Bye-bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.